Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Dominique Verdeillan.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous avez tenu pendant 32 ans la chronique judiciaire dans les journaux de France 2, suivi les affaires les plus retentissantes, tous les grands procès, et vous venez de rassembler vos souvenirs dans un livre paru aux éditions du Rocher, L'audience est ouverte, chronique d'une justice défaillante. Défaillante ou faillible? Vous avez entendu dans le journal le compte-rendu du procès en appel de Willy Bardon, dont la... Comment dire, dans le dossier souffre de quelques doutes, et en ce moment même, les jurés de Douai échangent leurs intimes convictions qui vont déterminer le sort d'un homme. Vous êtes souvent sorti d'une salle d'audience avec des doutes ou des tourments?
Oui, et d'autant plus quand il n'y avait pas d'appel possible, ce qui a été le cas dans l'affaire Omar Haddad que j'évoque assez longuement. Après aussi, l'appel a ses retors, si je puis m'exprimer ainsi, parce que on a vu, je pense à Maurice Agnolet, vous savez, qui était poursuivi pour la disparition d'Agnès Leroux, acquitté à Nice, condamné à 20 ans en deuxième instance à Aix. Donc voilà, elle est faillible, elle est défaillante, elle est humaine, et par conséquent, quelquefois, elle est difficile à expliquer, à décoder. Et ce qui explique peut-être que, selon les sondages, un Français sur deux n'ont pas confiance en leur justice.
Ben oui, vous dites que parfois on a le sentiment que la justice est une loterie face à ces grandes affaires. Si vous dites défaillante, Dominique Verdeillan, c'est que, selon vous, les leçons n'ont presque jamais été tirées des erreurs passées.
Non, on l'a vu après l'affaire Grégory, et qui n'est pas finie. Vous vous rendez compte, on est à 36 ans où on continue à chercher, et on espère, comme dans l'affaire Omar, qui en est à 30 ans, que c'est la science qui va aider la justice à éclairer les juges. Donc effectivement, on est face à quelque chose qui est difficile quelquefois à expliquer et à décoder.
La première des grandes affaires que vous racontez dans votre livre, vous venez de l'évoquer, celle de la mort de Ghislaine Marchal et le procès d'Omar Haddad à Nice, affaire récemment relancée par de nouvelles expertises ADN. Mais là, ce que vous dénoncez dans votre livre, c'est une enquête, une instruction, une audience qui n'ont pas été à charge et à décharge.
Ah non, c'est une enquête uniquement à charge. Vous savez, c'est très simple. Ghislaine Marchal ne donne plus de nouvelles depuis deux jours. Les voisins appellent les gendarmes. On descend, on va dans la maison. Il n'y a aucune effraction. On ne trouve pas le corps de Ghislaine Marchal. On voit son sac à main. On voit ses journaux. On voit ses lunettes. On se dit bon, le seul endroit où elle peut être, c'est dans le sous-sol de cette villa La Chamade. Donc on descend au sous-sol et on la trouve effectivement derrière une porte fermée par un système avec un chevron, un lit pliant, et on la découvre sauvagement tuée, plusieurs coups de couteau, elle baigne dans son sang, et elle aurait eu le temps d'écrire « Omar m'a tué, Omar m'a tué », puisque l'inscription apparaît deux fois sur des portes. Donc voilà, les gendarmes font une enquête de voisinage, demandent « Omar, ça vous dit quelque chose ?» Oui, c'est Jardinier. Et à partir de ce moment-là, ça a été la seule piste que la justice a explorée, se privant même de faire le béaba, c'est-à-dire de prendre des empreintes, ne serait-ce que sur le sac, pour savoir si de l'argent avait été volé, ne serait-ce que sur les prises électriques, où il y avait... des traces de sang. Et ne parlons pas des portes, puisque aujourd'hui, vous l'avez dit, la semaine dernière, la nouvelle avocate de Omar Haddad apporte des éléments en disant il y a encore un certain nombre d'ADN possibles qu'il va falloir examiner.
Ces portes maculées de sang qui ont été exposées en salle d'audience pendant tout le procès de Nice et qui ont tant impressionné tous ceux qui étaient dans cette salle d'audience, les observateurs, les journalistes, la presse, sans doute les jurés, les magistrats.
Oui, et procès à charge, parce que vous l'avez dit, on avait compris depuis le début que pour le procès président Armand Jean, il était forcément coupable, donc c'était vraiment une instruction à charge, avec en plus une présence à côté de Mahadad d'un Jacques Vergès totalement inexistant, absent face à un Henri Leclerc qui était l'avocat de la partie civile, qui était lui très 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 présent et très actif. Les portes nous sont effectivement amenés dans les derniers jours, et le président décide de les laisser pendant les plaidoiries, pendant le réquisitoire, de façon à bien imprimer, si vous voulez, le nom de Omar au juré. Et puis, bah, ces portes, je dois vous faire un aveu, j'y ai touché, donc probablement que mon ADN est sur cette porte, puisque elles ont été effectivement, comment dirais-je, vues, approchées par un certain nombre de journalistes, de chroniqueurs judiciaires, et donc par conséquent, on est face à des pièces à conviction, comme dans d'autres affaires, qui ont été tellement manipulées qu'aujourd'hui, la réponse est difficile à trouver.
Des portes qui avaient la force de l'évidence, m'a dit l'un de vos confrères, mais il faut se méfier des évidences, évidemment, dans les procès. Avez-vous le sentiment souvent, Dominique Vertéillan, dans ce type de procès, que l'émotion prenait le pas sur la raison?
Oui, bien sûr, et on le voit évidemment. Vous évoquiez tout à l'heure le procès de Willy Bardon. On peut parler de celui de qui se juge en ce moment à Nantes, de l'affaire Troidec. Les jurés sont confrontés à quelque chose de totalement inimaginable. Vous savez, ils sont tirés au sort à partir des listes électorales, et ensuite on leur demande quelque chose d'épouvantable. On leur demande de décider de l'avenir d'un homme ou d'une femme. Et surtout, on les projette dans quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Moi, je n'ai jamais été juré, mais j'ai donc, vous l'avez dit, suivi pendant 30 ans un certain nombre de procès. Il y a des choses que j'ai appris sur le comportement humain qui est totalement inimaginable, si vous voulez. Et donc, évidemment, qu'on soit accusé, victime, juré, mais également journaliste, on ne sort pas indemne d'une audience comme celle que on relate quotidiennement à la radio, à la télévision et dans la presse écrite. Ouais.
Et qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? C'est la souffrance, la douleur des victimes, ou parfois l'indifférence ou la monstruosité de certains accusés?
C'est à la fois les deux, et puis ce que m'a toujours intéressé, c'est le fonctionnement de la justice. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'on sort de ce procès en disant elle a bien fonctionné? On a évoqué Omar Radad, on pourrait évoquer d'autres procès où vous ne pouvez pas être satisfait de ce qui se passe. À contrario, il y a des procès où il y a une écoute de la part des présidents, une équité de la part des avocats généraux, et un enthousiasme de la part des avocats qui fait que on se dit là, oui, bon, le verdict qui a été rendu correspond à si ce n'est à une vérité, en tout cas une vérité judiciaire.
Ce que vous nous dites, c'est que sur les dysfonctionnements terribles qui ont frappé l'institution judiciaire, Grégory Villemain, l'affaire d'Outreau, tout cela aurait, selon vous, aurait justifié des réformes d'ampleur. Lesquelles n'ont pas eu lieu? C'est en cela que la justice est défaillante. Quel type de réforme aurait-il fallu après ces histoires?
Si vous voulez, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, l'affaire Grégory, l'affaire Outreau, on a fait des lois, on a fait une commission d'enquête parlementaire dans l'affaire Outreau, avec je ne sais plus combien de préconisations. Quand on voit le résultat aujourd'hui, elles ont très peu été mises en œuvre. On l'a vu récemment avec l'affaire Sarah Halimi, cette femme qui a été tuée par un jeune homme qui n'a pas été reconnu pénalement poursuivable, si je puis m'exprimer ainsi. Et par la Cour de cassation. Donc à chaque fois, on fait des réformettes, on fait des petites retouches, mais à aucun moment un garde des Sceaux, c'est peut-être Badinter qui a essayé de le faire la dernière fois, mais depuis ce n'a pas été le cas, à aucun moment on s'est dit on remet toute notre procédure à plat et on essaye de corriger le tir. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des magistrats, vous savez, le nombre de magistrats aujourd'hui, il est presque le même qu'il y a 50 ans. Or, on leur demande de juger, d'intervenir dans des procédures de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes. Donc, on s'est retrouvé à un millefeuille du code de procédure pénale qui fait que, il faut pas s'étonner si quelquefois les magistrats, juges ou procureurs, se prennent les pieds dans le tapis.
Merci beaucoup, Dominique Vertéillan. L'audience est ouverte, chronique d'une justice défaillante aux éditions du Rocher. Merci.